Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grand à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au bilan du quinquennat, à la rubrique Réforme de société, c'est le mariage pour tous qui s'impose immédiatement à l'esprit. Il est pourtant une autre réforme qui mériterait d'y être inscrite. La loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie, adoptée l'an dernier. Alors certes, sa portée symbolique est moindre que la loi Leonetti de 2005 sur le même sujet, mais les changements sont loin d'être négligeables. Le texte instaure un droit à la sédation profonde et continue, autrement dit, un droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir, pour reprendre les termes d'un de ses auteurs. Il renforce ce texte par ailleurs les directives anticipées que chacun pouvait déjà rédiger en les rendant contraignantes pour le corps médical. Ces changements importants n'ont pourtant pas clos le débat sur la fin de vie. Pour preuve, les revendications exprimées à la faveur de la campagne présidentielle. Certains candidats militent en faveur d'un véritable droit à l'euthanasie, c'est-à-dire l'administration par des médecins de substances entraînant directement la mort, voire en faveur du suicide assisté tel qu'il est pratiqué dans des pays voisins de la France. Alors faut-il autoriser l'euthanasie ? Eh bien, c'est le deuxième volet de notre semaine spéciale consacrée à des débats de société, et ce avant le premier tour de la présidentielle. Des débats de société pas forcément très nouveaux, mais discutés dans le cadre de cette présidentielle. Hier, nous évoquions la question d'un rétablissement du service militaire obligatoire, ou en tout cas d'un service national obligatoire. Et donc ce soir, la question de l'euthanasie est plus largement, parce que sans doute qu'on va assez vite sortir de cette simple appellation, plus largement la question de la fin de vie. Pour en discuter, deux invités. Marc Grassin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en éthique médicale, philosophe, maître de conférences à l'Institut catholique de Paris et vous venez de publier aux éditions du CERF « La mort assistée », livre que vous avez coécrit avec Frédéric Pochard. Pour discuter avec vous, Philippe Bataille, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, directeur d'études à l'EHESS, membre du Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin. Vous avez publié en 2015 aux éditions Autrement, à la vie à la mort, euthanasie, le grand malentendu. Puis je cite également le dernier ouvrage, toujours aux éditions Autrement. Celui-ci aussi a été coécrit avec Sandrine Bretonnière, ça s'appelle « Vivre et vaincre le cancer ». Alors avec vous deux, je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette modification législative importante, une loi Claeys-Leonetti du nom de ces deux auteurs qui a été adoptée définitivement l'an dernier, le 27 janvier par le Parlement, un peu plus de 10 ans après la loi Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie. Est-ce que vous considérez, l'un et l'autre, d'abord qu'une révision de cette loi de 2005 était nécessaire, Philippe Bataille?
À partir du moment où ça a donné un résultat, notamment en nommant de manière plus précise ce qu'on peut appeler des droits des malades, reconnus par la loi, à savoir celui de ne pas être réveillé à partir du moment où vous avez été endormi en vue de mourir, c'est-à-dire qu'on sait que vous ne vous réveillerez pas, effectivement, de pratiquer ce qu'on peut appeler les sédations profondes et sans réveil, et c'est une avancée indiscutablement. Puisque la sédation, c'est une technique, selon son usage, sa finalité première, c'est que les gens se réveillent. Hein. C'est-à-dire, c'est précisément une technique qui ne sert pas à faire mourir. Mais là, le dispositif est un spectre mis en place pour couvrir l'intentionnalité de faire mourir, qui est quand même une évolution par rapport à la loi de 2005, qui était un laisser mourir sans du tout autre technique que la suspension d'hydratation et d'alimentation. Là, je dirais que la technique s'est étoffée de l'endormissement. Et effectivement, aujourd'hui, dans les services, des sédations profondes et sans réveil sont pratiquées à quelques jours de ce que serait la mort, c'est-à-dire sur la toute fin de vie, et sans anticipation. Et c'est là où la loi est limitée, c'est-à-dire que en se bloquant sur cette idée d'euthanasie ou de suicide assisté, c'est-à-dire ne tenant pas compte même de l'évolution du langage dans le débat public, ce qu'on peut appeler l'aide active à mourir ou l'aide médicale à mourir, la loi reproduit les limites de 2005.
Alors on va revenir justement sur ces limites, enfin en tout cas je retiens de votre première intervention qu'il y avait nécessité de modifier cette loi de 2005 voilà. Et peut-être voilà d'en gommer certains dysfonctionnements. De votre côté, Marc Grassin, est-ce que vous partagez d'abord ce premier diagnostic, il fallait réviser la loi Leonetti de 2005?
Je pense d'une manière générale, il faut toujours réviser les lois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette loi 2005, ça a modifié un certain nombre de pratiques, ça a suscité de la réflexion, ça a changé un peu la culture. Et en même temps, Il y a un certain nombre de limites, un certain nombre de situations qui sont apparues. Et donc, il fallait sans doute, et c'est effectivement, trouver un certain nombre de stratégies, finalement, d'adaptation pour que l'esprit de la loi Leonetti, c'est-à-dire essayer de permettre, accompagner la fin de vie dans des conditions qui sont des conditions acceptables, puisse se faire. Et donc, la sédation profonde et continue est quelque part, de mon point de vue, une espèce de suite logique, une adaptation à la compréhension d'un certain nombre de situations un peu limites auxquelles il fallait bien trouver un certain nombre de réponses. Donc voilà, c'est des stratégies d'adaptation. Après 10 ans, ça n'a rien d'étonnant, et puis peut-être il y aura d'autres stratégies d'adaptation par la suite.
Mais juste pour rester encore un court instant sur cette loi Leonetti de 2005, cette adaptation nécessaire, est-ce que d'après vous elle était liée à une mauvaise écriture de la loi, en tout cas un manque peut-être d'anticipation de certains effets indésirables, ou bien avant tout parce que 10 ans après, la société avait évolué sur ces questions et qu'il fallait aussi peut-être tenir compte de ces évolutions?
Je pense que ce n'est pas tellement la question de l'évolution de la société. Je pense que c'est vraiment la question que l'arrêt des traitements, tel qu'elle est définie possiblement par la loi Leonetti, pose effectivement un certain nombre de difficultés. Et donc, il fallait trouver finalement un accompagnement de la possibilité d'arrêter les traitements dans un certain nombre de situations, de telle manière que les conditions, en quelque sorte, de confort, de survenue du décès pour les patients soient acceptables. Et là, par exemple, l'arrêt d'hydratation et d'alimentation, qui était un des éléments importants dans la loi Leonetti, génère parfois des situations un peu difficiles, un peu complexes, à la fois en termes de confort pour les patients, à la fois en termes de confort pour les familles qui accompagnent celui qui décède, et en même temps pour les soignants. Et donc il est assez cohérent en quelque sorte de trouver des modalités techniques qui vont permettre la réalisation et la continuité de l'esprit de la loi, d'une certaine manière.
Cohérent, mais donc pas suffisant, si j'ai bien compris votre intervention précédente, Philippe Bataille. Les insuffisances, elles seraient sur quoi? Est-ce que, alors, à travers, puisqu'il y a deux grandes modifications, on va dire, c'est effectivement la sédation profonde et les directives anticipées. On y reviendra peut-être un tout petit peu après sur les directives anticipées, mais s'agissant de la sédation profonde, qu'est-ce qui vous paraît insuffisant? Est-ce que c'est le fait d'organiser une forme d'euthanasie indirecte, mais qui ne dirait pas son nom? Est-ce que ça peut être ça, justement, la limite que vous y trouvez?
Alors ça, c'est une limite, vous avez raison de la nommer, mais j'ai envie de dire qu'il pose autant des problèmes aux soignants qu'aux patients et aux familles. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur des services eux-mêmes que parfois le trouble est jeté à partir de sédation profonde et sans réveil, et c'est effectivement les processus qui vont être enclenchés jusqu'à in fine, c'est-à-dire jusqu'à la mort, mais qui peuvent mettre en difficulté ce qu'on peut appeler les normes professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la loi, et puis après, il y a les pratiques, il y a les usages, il y a ce qu'on sait faire, il y a parfois les expériences, des choses qui se sont mal placées, ou des produits qui, on ne sait pas s'ils accélèrent ou s'ils retiennent la vie, enfin, ou la mort. Enfin voilà, donc on en est aujourd'hui à quelque chose d'assez dérangé. Enfin, moi, je ne dirais pas, en parlant très tranquillement comme ça, je ne dirais pas que la loi Leonetti, Leonetti de 2016, a résolu un certain nombre des problèmes qui avaient été soulevés dès la loi Leonetti de 2005. On peut prendre un exemple que tout le monde connaît bien, l'affaire Vincent Lambert, cours de 2008 à aujourd'hui, puisque le pauvre est toujours là. Il a vécu plusieurs réaménagements de la loi de 2005. Son cas a vraiment été dans tous les tribunaux européens, toutes les cours françaises, y compris le Conseil d'État. Et la situation d'aujourd'hui est bloquée de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas appliquer ce qui pourtant a été demandé, y compris par la Cour européenne des droits de l'homme.
Mais quelle évolution législative aurait été nécessaire pour permettre justement de pouvoir régler ce cas particulier, qui n'est pas forcément un cas totalement isolé, mais c'est un cas relativement rare, on va dire.
Oui et non. Il est rare, bien sûr. Prenons un autre terme encore, ce sont des cas exceptionnels. Mais ces cas exceptionnels arrivent, nous interrogent et à chaque fois ont heurté l'état du droit, l'état des lois et parfois une représentation sociale. Enfin voilà, nous sommes dans des situations médicales, cliniques, mais aussi il y a un corps, il y a une personne, il y a une famille, il y a aussi des soignants, une équipe, dans des situations qui aujourd'hui sont stagnantes, n'évoluent pas. À raison d'une loi qui probablement devient-elle très performante sur la fin de vie, les authentiques fins de vie, mais il y a aussi d'authentiques situations exceptionnelles qui sollicite la compassion de tous, mais aussi peut-être une transgression, c'est-à-dire de penser la mort de quelqu'un qui la réclame. Et collectivement, on peut être interpellé, on peut répondre. Ça s'appelle l'euthanasie, c'est effectivement de penser une procédure ou de penser une voie pour ces situations parfaitement exceptionnelles où la mort est réclamée, soit sous la forme d'euthanasie, soit sous la forme de suicide assisté. Et tant que nous n'aurons pas un dérivatif, enfin quelque chose qui ouvre une procédure, qui nous laisse laisser interpeller par ces situations qui nous accablent, eh bien nous serons dans des révisions de loi, c'est pas la première, elle a été un peu réécrite, mais qui au fond se heurte sur la même difficulté, à savoir la mort décidée et la mort enclenchée sans superfuge, c'est-à-dire sans simplement attendre que la mort se réalise au bout de plusieurs jours, on ne sait pas combien.
Marc Grassin.
La difficulté, c'est le rapport à la loi. C'est-à-dire, c'est d'imaginer que nous réussirions à avoir une loi qui permettrait de résoudre de manière adéquate et éthique l'ensemble des situations qu'on rencontre. Bon, la réalité, c'est que lorsqu'on est face à une situation clinique avec un patient en fin de vie ou plus ou moins en fin de vie, voilà, il y a toujours un travail d'interprétation clinique, d'adaptation, hein, avec des options éventuellement différentes entre la représentation éventuellement que le patient peut avoir de sa propre destinée, à la fois la représentation que se font les proches et de ce qu'ils vivent, et puis aussi les soignants. Donc il y a toujours la question finalement d'une interprétation, et que la décision ou les décisions qui sont à prendre au quotidien dans les services de quelque nature que ce soit, ça va être un travail d'essayer d'interpréter et d'adapter pour trouver des solutions adéquates qui conviennent le mieux possible finalement à l'ensemble des acteurs qui vont interférer dans cette affaire-là.
Mais justement, peut-être que si plus la loi est précise, plus ceux qui doivent l'interpréter auront des outils pour l'adapter aux différents cas.
Oui, et en même temps, plus elle est précise, plus elle peut bloquer en quelque sorte les marges d'interprétation et d'exercice de la liberté et de la responsabilité de ceux et celles qui ont à décider quelque chose dans ces situations-là. Peut-être une des raisons pour lesquelles on a des blocages sur un certain nombre de situations, c'est qu'effectivement le débat tourne autour: est-ce que la personne est en fin de vie ou pas, quelle est la nature des séquelles et l'importance des séquelles, etc. Donc moi j'ai tendance à penser que plus on a, à la fois il faut un cadre clair avec des procédures relativement clair pour que chacun puisse exercer dans un cadre défini et qui permet d'éviter un certain nombre de débordements, mais en même temps qu'il y ait des espaces où effectivement les décisions vont pouvoir être prises dans, on pourrait dire, non pas simplement dans le colloque singulier entre le patient et l'équipe médicale ou soignante, mais entre l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire le patient, sa famille et les proches, et quelque chose d'extrêmement important. Donc un peu de flou, d'une certaine manière, libère l'espace de la prise de décision, libère l'espace de l'exercice de la responsabilité et ouvre en quelque sorte des espaces de négociation. On peut faire l'hypothèse que un cadre trop rigide empêche, ou une normativité trop rigide empêche quelque part la juste adéquation ou le juste ajustement pour essayer de trouver les solutions à la fois humaines, à la fois sociales et à la fois techniques qui conviennent bien pour faire en sorte que des décisions de fin de vie, et en médecine on prend au quotidien des décisions de fin de vie, puissent être considérées comme acceptables au regard de l'ensemble des acteurs qui sont concernés.
Philippe Bataille, est-ce que pour vous il aurait été nécessaire que par la question de l'euthanasie figure plus clairement dans la loi, sans faire spécifiquement une loi sur l'euthanasie, mais que ce terme-là existe pour permettre justement de distinguer les différents cas, et peut-être d'ailleurs pour faire mieux comprendre ce qu'est la sédation profonde et d'expliquer que justement ça n'est pas de l'euthanasie puisque ça n'est pas administrer directement la mort, mais c'est conduire, on va dire, de manière plus progressive et plus indirecte vers la fin de vie.
Vous avez raison, nous devons distinguer les cas, hein, et d'une certaine manière les flux aussi, si j'entends bien, et je l'entends vraiment bien, ce qui est dit, à savoir l'ordinaire et le quotidien, ce qui est massif, enfin voilà, on a plus de 500 000, 550 000 décès par an en France, avec des situations de fin de vie, et puis des situations qui rentrent pas dans l'ordinaire et dans le quotidien. Ça vient d'ailleurs tout bousculer. Ça nous dit beaucoup de ce qui se passe au quotidien, mais c'est quand même la mort aux urgences, c'est quand même la mort dans le camion de transport de l'EHPAD qui panique, ou d'une famille qui panique face à une fin de cancer, ou face à l'âge, le handicap, voilà. Toutes ces choses-là se passent difficilement. Nous avons considérablement amélioré, je pense, dans les 10 dernières années, comme d'autres pays européens d'ailleurs, avec l'outil législatif, mais pas seulement, aussi la formation des soignants, aussi la dissémination, la dispersion à tous les niveaux d'ailleurs du soin, des soins palliatifs, à domicile, à l'hôpital, dans les services, dans les lits, dans des unités spécialisées, voilà, mais aussi aux urgences, aussi en pédiatrie, enfin voilà. Donc voilà, un réflexe, si vous voulez, de non-abandon de la mort, enfin voilà, de sortir d'une espèce de torpeur comme ça, ou de silence coupable. Sur la mort qui arrive partout, 500 000 par an, mais voilà, on a vraiment évolué. Cela étant, nous n'avons pas la capacité aujourd'hui, et j'entends bien ce qui est dit, de touche à touche, chacun dans le flou, garder des aménagements, mais c'est aussi un régime d'inégalité qui se met en place avec peut-être même plus que des inégalités, des privilèges. Certains peuvent arriver à organiser leur mort et à la vivre comme ils l'entendent, et notamment à domicile, et d'autres pas du tout, qui sont pris dans des logiques où la famille ne comprend pas, où la personne n'est plus entendue, qui sont à l'opposé de ce qui pouvait être attendu, y compris parfois par des médecins eux-mêmes. Enfin voilà, je veux dire, une panique générale au moment de la mort, ça reste chaotique, ça reste difficile et ça reste risqué. Donc voilà, nous voilà. En quoi les questions de l'euthanasie et du suicide assisté ont-elles à voir avec ce banal et ce quotidien difficile à organiser, difficile à aborder, puisque tout le monde demande des soins, tout le monde va très loin, et voilà, les derniers moments, c'est sur des temps très ramassés, parfois de quelques jours, de quelques semaines, quelques mois quand on anticipe, mais pas plus, voilà. En quoi l'euthanasie et le suicide assisté? Ben précisément pour dégager la voie à l'ordinaire et au quotidien. Ne pas faire la confusion quand quelqu'un demande à mourir, qu'il est en train de dissimuler un suicide, de réaliser je ne sais quel imaginaire personnel, de schéma, voilà, où il ne veut plus vieillir, il veut mourir. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Il faut dégager la piste du débat sur l'euthanasie et le suicide assisté pour identifier les authentiques situations où ces questions sont posées, et elles sont plus ou moins convaincantes quand les gens les posent, parce que vraiment, ce sont des situations médicalisées terribles, et les voyages en Suisse, voilà, les gens sont vraiment dans des états de maladie, ou même aujourd'hui en Belgique, voilà, nous sommes dans un pays où les gens vont mourir de manière illégale en passant les frontières, en demandant quelque chose que nous sommes tout à fait capables de réaliser, qui est l'accompagnement actif dans certaines situations où la médecine est engagée et où la société est concernée.
Marc Grassin, j'imagine que vous n'allez pas être tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bataille. Est-ce que pour vous, inscrire par la question de l'euthanasie ou du suicide assisté dans la loi, c'est quelque chose à laquelle vous êtes hostile en raison, peut-être, je ne sais pas moi, des risques qui pourraient être liés justement à cette inscription législative, ou bien est-ce que c'est d'abord et avant tout une affaire de principe?
Je suis plutôt, effectivement, plutôt opposé. C'est-à-dire que je pense que d'abord, il y a un certain nombre d'alternatives possibles qui sont à travailler. Et une des alternatives dont vous évoquez, c'est à la fois la question de la formation et puis la question organisationnelle et structurelle dans notre société. Donc, il y a une vraie question d'engagement, en quelque sorte, social autour de cette question-là. Je suis assez hostile pour deux raisons. D'une part, pour des questions de principe. C'est-à-dire, je pense que valider socialement la question qu'il serait possible, sur un certain nombre d'éléments de critères, de donner la mort à quelqu'un, me semble un message envoyé dans des sociétés comme les nôtres aujourd'hui, assez compliqué et contre-productif pour la plupart des individus qui se retrouvent en situation de fragilité. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est le rôle social qu'on fait jouer à la médecine là-dessus. Et je pense que là, on a une vraie question, c'est-à-dire, est-ce que la fonction du corps social, de la médecine, corps social soignant au sens large du terme, est bien, effectivement, de provoquer la mort, ou de trouver les solutions adapter, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que ça me paraît assez essentiel, adapter aux situations que les hommes et les femmes rencontrent dans ces situations-là avec des marges de négociation. Voilà. Je pense que la mécanisation, en quelque sorte, d'un droit à mourir dans la question de l'euthanasie active ou du suicide assisté pose problème. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas de légitimité de la part des patients à revendiquer quelque part de cet ordre-là. Mais la légitimité des patients à revendiquer quelque part une décision de cet ordre-là ne justifie pas nécessairement la validation sociale de ça. Donc il y a un écart entre les deux qui me semble être assez important à maintenir parce que c'est peut-être dans ce petit écart qu'on va réouvrir ou ouvrir des possibilités d'invention de nouvelles stratégies, d'invention d'engagement collectif sur cette question-là. On sait par exemple que la question des soins palliatifs qui n'est pas forcément la solution idéale partout, les soins palliatifs, hein, mais on sait qu'il y a à peu près 1500 lits de mémoire, il y a 5000 lits consacrés, non mais il y a des unités et puis il y a des lits consacrés, mais par rapport aux 500 000 décès, c'est évidemment extrêmement faible. Et on voit bien que le non-investissement du corps social autour de ces questions-là génère évidemment des situations qui sont cataclysmiques pour un certain nombre de patients et qui peut pousser comme stratégie de réponse effectivement à une organisation sociale de mort provoquée pour résoudre la situation. Je pense qu'on gagne à différer cette question-là dans un premier temps.
D'autant Philippe Bataille, puisque Marc Grassin évoquait la question des soins palliatifs, qu'il semble être assez fréquent que des personnes qui pourraient être en demande d'euthanasie finissent par ne plus formuler ces demandes lorsqu'elles se retrouvent en soins palliatifs, c'est-à-dire lorsqu'elles bénéficient d'un accompagnement réel et beaucoup plus socialisé vers la mort.
Les deux existent, vous avez absolument raison. Je veux dire, la prise en charge de la douleur, l'aménagement, voilà, par des techniques, des soins, mais vraiment, on va dire, une performance soignante. Et du reste, les patients sont les premiers à le dire. J'ai jamais été aussi malade, puisque je suis quand même en soins palliatifs, mais j'ai jamais été aussi bien soigné, aussi bien considéré, aussi bien abordé. Enfin, voilà, je veux dire, il y a effectivement une offre, enfin, je sais pas comment la qualifier, parce que le mot est trop dur, mais un modèle d'accompagnement institutionnel, effectivement, qui s'est développé en France et qui répond à ce qu'on pouvait appeler le scandale de la mort il y a 20 ou 30 ans, avec véritablement ces images de l'abandon du mourant à sa maladie et à son agonie.
Donc voilà, elle est suffisamment développée, cette offre, ou il faudrait faire encore davantage?
Non, il faut la développer bien plus. Et il faut que cette offre elle-même s'articule et avec des nouveaux enjeux. Et donc, ce n'est pas du tout la technique ou le soin palliatif qui est en cause. Par exemple, les soins à domicile, ça demande une articulation des coordinations médicales, soignantes, extrêmement difficiles à réaliser sur des territoires, des domiciles qui ne sont pas toujours adaptés. Et encore une fois, si on est travaillé par la question de l'égalité des soins, et l'égalité face à la mort, de ne pas mettre en place des régimes qui peuvent avoir un sens hein, au niveau des temporalités articulées différentes, faisant qu'on avance d'un côté, on régule, et on peut faire un autre pas de manière expérimentée, je comprends bien. Mais on est quand même dans une situation où les questions sont incarnées. Enfin voilà, les demandes existent. Enfin c'est chaque semaine.
On entend ici et là des
gens en souffrance.
Je me permets justement de vous interrompre puisque alors, parmi ces demandes incarnées et dont les médias se font de temps en temps le relais, il y a le cas qui est assez récent de cette romancière Anne Baer qui est atteinte d'une maladie incurable, la maladie de Charcot. Et si on en parle, c'est parce qu'elle a interpellé directement les candidats à la présidence en leur écrivant une lettre et en leur disant ceci: il est de votre devoir de vous positionner à propos de la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Elle témoigne de la situation qui est la sienne aujourd'hui.
Je ne peux plus du tout me servir de mes bras ni de mes mains. Et en fait, c'est un petit peu, imaginez, c'est comme si j'avais les deux bras coupés au niveau des épaules. Donc je ne peux plus rien faire du tout toute seule. Je suis à peu près comme un enfant de 2 ans à qui il faut tout faire. Je sais que je vais mourir, je sais que chaque jour je deviens plus dépendante, plus paralysée, je ne veux pas devenir grabataire et donc j'ai décidé de mettre moi-même un terme. Je veux choisir le moment où ça suffira, je ne veux pas souffrir, il n'y a aucun honneur à souffrir, aucun devoir de souffrance. Je suis obligée de fuir à l'étranger pour pouvoir finir ma vie. Ce n'est pas à la Belgique, ce n'est pas à la Suisse de s'occuper de la fin de vie des Français.
Voilà, témoignage diffusé il y a quelques jours dans le journal de 13h de France 2. Marc Grassin, ce que dit cette femme, je ne veux pas devenir grabataire, je veux choisir le moment où ça s'arrêtera, je ne veux pas souffrir. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit répondre à ce genre de revendication qui est formulée notamment sur le registre des, du droit de la liberté individuelle à choisir sa mort?
Mais il y a deux registres d'analyse, c'est-à-dire que si on le lit d'un point de vue individuel, on comprend évidemment la revendication qui est un projet existentiel d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire voilà son existence, elle la détermine d'une certaine manière et donc il y a une légitimité à ça. Donc c'est extrêmement important de ne pas disqualifier ça, donc de reconnaître évidemment la dimension individuelle. Bon, après la question, c'est une question plus une lecture qui est une lecture sociale, c'est-à-dire est-ce que effectivement le corps social a pour vocation systématiquement d'organiser des réponses qui sont adaptées à la demande individuelle. Et là, c'est une vraie question de fond, c'est-à-dire que est-ce que l'exercice de la liberté individuelle va être déterminé dans un cadre qui est un cadre social plus large que soi-même. C'est une question de l'anthropologie libérale qui est derrière, c'est-à-dire que...
Parce que vous avez des mots assez forts, on va dire, dans le livre que vous co-signez avec Frédéric Pochard, La mort assistée. J'ai relevé notamment cette phrase, il y en a beaucoup d'autres. Avec comme socle la lutte contre la souffrance, nous devons tous adhérer à l'impératif moral du libéralisme, l'obligation de jouir en permanence de soi à pleine puissance.
Oui, alors je reprends avec Frédéric, on reprend des propos d'autres auteurs, hein, en particulier. Mais l'anthropologie libérale, j'essaie de la résumer simplement, c'est un projet finalement d'intensification de soi-même par l'exercice de sa liberté. Et c'est un point extrêmement fort, c'est la bonne nouvelle du libéralisme et de son anthropologie, c'est-à-dire nous pouvons jouir de notre liberté et nous pouvons fabriquer notre propre monde, c'est-à-dire nous sommes en quelque sorte comme maîtres et possesseurs de notre propre existence. Donc ça c'est évidemment central de ce point de vue-là. Et donc nous existons tous les uns les autres sur ce sommet-là. Et en même temps, la condition de possibilité pour exercer cette jouissance de soi ou cette intensification de soi-même, c'est va être dans un cadre social plus large, c'est-à-dire régulé quelque part par un cadre qui lui préexiste. Alors le cadre, c'est le fait qu'il y a d'autres, c'est le fait qu'il y a des normes, c'est le fait qu'il y a des pratiques sociales, c'est le fait que il y a des interdits, etc. Et donc va y avoir une tension qu'il va falloir négocier, et alors qui est compliqué pour évidemment les sujets libéraux que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, parce que nous allons être contraints, quelque part, toujours de rencontrer la confrontation à la limite. Si on force le propos, mais évidemment c'est hyperbolique, hein, c'est une manière de le forcer, le sujet libéral est celui qui va progressivement s'intensifier et jouir de lui-même en dépassant sans cesse les limites. Et évidemment, la question de la fin de vie et la question de la mort va être une épreuve assez douloureuse, puisque c'est l'expérience, par définition, de la perte de soi, de la dépossession de soi, de la rencontre de l'incapacité, de l'impossibilité et surtout de l'impossibilité quelque part d'encore décider de quelque chose. Et du coup, évidemment, c'est une violence qui est faite au sujet libéral et on comprend bien que c'est extrêmement violent. La question, c'est est-ce que le corps social a pour objet de valider quelque part l'expression et le désir des individus, ou est-ce que le corps social a pour fonction d'essayer de cadrer et de border quelque part quelque chose dans lequel cette liberté va pouvoir se construire?
Comment est-ce que vous répondez à cette double question, Philippe Bataille?
Je ne sais pas si le sujet libéral est pris dans l'hyperbole. Moi, je parle du handicapé qui voit le handicap se consolider, et l'homme et la femme qui sont emmurés et ça va encore se dégrader et qui sont dans la souffrance absolue. Je parle des malades qui, aujourd'hui, sont les premiers acteurs dans leurs soins en étant extrêmement pro-acteurs, c'est-à-dire se consolidant dans la lutte contre la maladie. Ce sont des lutteurs de la vie. Je parle de ces enfants, parfois, qui sont mal-nés et dont les parents sont éplorés sur le berceau et ne savent pas ce qui va se passer, à part que l'enfant est autonome sur le plan respiratoire et que la médecine qui s'est engagée et qui peut s'être dégagée ne peut rien faire parce que voilà, on donne à boire et à manger à un enfant naissant et qui sont dans une impasse totale et au bord de l'infanticide. Je parle de ces services qui s'en sont appelés le procureur de la République parce qu'ils soupçonnent les familles que le crime se répand sur l'hôpital parce que effectivement la mort est réclamée.
Mais plutôt que de réclamer de nouvelles libertés individuelles, Philippe Bataille, Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réclamer de meilleurs accompagnements, une resocialisation peut-être de la fin de vie?
Non, je pense qu'il faut sortir du bug intellectuel, si vous voulez, mais de la confrontation des théories qui ne répondent pas à ce que le social dit. Voilà, moi j'attends du social qui permette à l'individu d'être encore plus un individu. Et je ne suis pas dans une situation où l'individu me paraît une menace pour le social. Je pense exactement le contraire. Et il n'y aurait pas d'idée de société s'il n'y avait pas d'individu. Ça fait 300, 400 ans qu'on en parle. Donc voilà, donc nous sommes dans une espèce de regard comme ça surplombant un peu sur les risques pris, sur la société qui d'un seul coup rendrait fous les individus qui qu'elle créerait elle-même. Enfin voilà, donc, voilà, tout ça ne répond à rien. Je trouve que la médecine se tire une balle dans le pied en appliquant furieusement une législation qui s'impose à elle, en l'occurrence, et qui entrave le fonctionnement des services et qui casse l'expérience des familles dans l'accompagnement de la mort, aujourd'hui sous nos yeux dans l'hôpital français.
Mais par ailleurs, y a-t-il pas un paradoxe, une contradiction dans le fait de revendiquer une liberté individuel, là, pardonnez-moi, je reste sur les principes, même si bien entendu les cas concrets individuels sont les plus importants, mais un paradoxe à revendiquer une liberté individuelle, mais que l'on demande de faire appliquer par d'autres qui ne se par un corps social, en l'occurrence la médecine, qui n'est pas forcément d'accord avec ça.
C'est pas le cas nécessairement dans le suicide assisté. Si on prend la loi belge de l'euthanasie, qui sont des situations empiriquement, qu'on appellerait suicide assisté ailleurs, ce sont des gens qui auraient pu aller en Suisse ou quoi. C'est la médecine qui s'engage et qui reste auprès de son patient lorsque la situation arrive à une situation d'impasse. Tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. On sonne pas à la porte comme ça d'un cabinet en disant qu'on veut la mort. C'est dans une relation qui souvent a duré 10 ans. Enfin voilà, c'est la médecine qui n'abandonne pas son patient. Voilà, c'est le contraire de l'égoïsme ou de l'altérité entravée, c'est au contraire de la solidarité, et c'est une épreuve de solidarité pour les sociétés.
Marc Grassin ?
Juste revenir sur le... Il est clair que des décisions de fin de vie en médecine, il y en a qui sont prises au quotidien. C'est-à-dire que vous évoquez la question de la réanimation, etc. On sait qu'aujourd'hui... À partir des études, à partir des années 2000, 50% des décès dans les services de réanimation sont consécutifs à des prises de décisions de fin de vie.
Alors, je dis 27% de l'hôpital, c'est une décision.
Voilà, décision de fin de vie, c'est-à-dire que c'est hétérogène. C'est-à-dire des décisions qui vont consister à prendre un certain nombre de mesures diverses et variées pour que la fin de vie du patient se passe dans des bonnes conditions. Donc c'est pas là-dessus c'est pas exceptionnel, c'est-à-dire que c'est pas la tension entre le désir d'individu et une résistance de la médecine, c'est pas tout à fait la réalité. La réalité, c'est qu'au quotidien, les équipes prennent au sérieux la souffrance des patients dans lesquels ils se trouvent, qu'il y a des logiques de refus, d'obstination déraisonnable, et qu'il y a des stratégies qui sont mises en place.
Voilà. Et si on va trop loin dans les droits individuels, on risque quoi de déresponsabiliser la médecine, grâce à ça?
Je pense qu'on risque de mettre la médecine au service du désir de l'individu, et c'est pas en soi un problème, c'est-à-dire que c'est comment le corps médical va pouvoir et sur quel type de critères décider au nom finalement d'une certaine forme d'objectivation. Alors on peut toujours évoquer, dire qu'il y a l'objectivation dans un certain nombre de, par exemple sur des séquelles neurologiques, sur un certain nombre de nouveau-nés par exemple, il y a une objectivation et une subjectivité en même temps derrière. Donc c'est maintenir quelque part le fait que ceux et celles qui ont à prendre des décisions, parce qu'ils vont être les acteurs, les tiers acteurs de ça, puissent le faire au regard aussi de la normativité en place dans la fonction soignante. Alors, la question est... on n'est pas dans des stratégies binaires sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a des transgressions possibles, il y a des négociations possibles, il s'agit de les trouver. Mon inquiétude, c'est si on radicalise la socialisation de la réponse, voilà, je pense qu'on risque de priver quelque part les logiques d'ajustement et de relations qui vont se jouer quelque part pour... permettre des fins de vie adaptées.
J'entends bien tout ça, on ne pose pas de difficultés dans l'échange. Mais encore une fois, la réalité est tout autre. Et je voudrais dire que si on prend la dimension individu, même si on la prend sur un plan philosophique, selon mon expérience, et j'ai suivi quelques cas, ce sont des personnalités tout à fait exceptionnelles qui réclament la mort, y compris au bout du handicap très lourd, très enfermant, la maladie de Charcot qui était évoquée dans le témoignage.
Quand vous dites exceptionnel, c'est-à-dire quelle est leur exceptionnalité ?
Mais c'est de passer toutes les limites de leur propre morale. Enfin voilà, personne ne veut réclamer la mort de son enfant de 3 ans parce qu'il a échappé à une noyade avec les pompiers en 45 minutes. Voilà. Et on est un an après et la situation est bloquée. Voilà, ou ces affaires qu'on a entendues, des affaires Imbert. Voilà, ce sont des personnes. Parce que c'est pas pour soi-même, parfois c'est l'épouse pour un mari qui est dans le coma depuis 2008. Voilà, ce sont vraiment des personnes exceptionnelles. C'est pour dire et répondre d'une certaine manière à la peur d'une généralisation ou d'un social à qui on répondrait favorablement sans entendre pourtant sa demande aujourd'hui et qui est bien comprise par les Français, qui n'est pas une espèce d'euthanasie libérale comme ça, je ne sais pas de quoi on parle, mais qui est de réclamer une aide active, médicale, à mourir, dans certaines situations, celle de la fin de vie étant plutôt aujourd'hui effectivement abordée, y compris par la loi, permettant l'endormissement sans réveil au moment où ça peut être réclamé. Donc voilà, mais ça ne suffit pas, effectivement.
Alors savoir de quoi on parle, c'est sans doute quelque chose d'absolument essentiel. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que sur ces questions de fin de vie, le suicide assisté, les directives anticipées, l'euthanasie, ce sont des notions qui sont bien comprises par l'ensemble des personnes concernées, et y compris d'ailleurs peut-être par le corps médical. Je voudrais juste vous faire écouter un court spot publicitaire qui est passé dernièrement à la télévision.
La fin de vie, personne n'aime y penser. On évite la discussion, on remet le sujet à plus tard. Bref, on fait l'autruche. Pourtant, vous pouvez donner votre avis en rédigeant vos directives anticipées ou en choisissant votre personne de confiance. La fin de vie, et si on en parlait ? Rendez-vous sur parlonsfindevie.fr.
Voilà, spot officiel du gouvernement. Les directives anticipées sont donc un texte que chacun peut rédiger pour dire ce qu'il souhaite qu'il lui soit appliqué s'il se retrouve en situation de fin de vie, soit justement peut-être d'avoir une sédation profonde ou au contraire qu'il y ait un vrai suivi médical. Sur la question de l'information, Marc Grassin et Philippe Bataille, est-ce que vous considérez justement que toutes ces questions-là sont suffisamment connues et du grand public, mais également de ceux qui sont amenés à s'y confronter dans le milieu hospitalier, Marc Grassin ?
C'est une question assez difficile parce que anticiper la fin de vie, en fait, la fin de vie, elle est toujours singulière. Donc je peux anticiper de manière générale un certain nombre, globalement, si on fait un tour de table dans l'opinion publique, tout le monde souhaite une fin de vie apaisée, relationnée avec ses proches, sans souffrance, avec une gestion de la douleur, etc. Tout le monde, voilà. Donc, si la directive anticipée consiste à dire ça, voilà. Mais ça ne dit rien de la réalité objective dans laquelle des individus, dans un contexte donné, vont se retrouver.
Et c'est une pratique d'ailleurs très minoritaire, d'après une enquête d'opinion assez récente. 88% n'ont jamais rédigé de telles directives.
Oui, et de toute façon, quand bien même on rédige des directives anticipées, dans la situation singulière, et les exemples que vous donnez sont intéressants, de toute façon, c'est une négociation, d'une certaine manière. Dire aujourd'hui, maintenant, je ne veux pas être réanimé, par exemple. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la question de la réanimation néonatale, mais je ne veux pas être réanimé. On peut comprendre, mais en même temps, dans une situation tout d'un coup concrète, ça va devoir se discuter. C'est-à-dire, on va devoir porter la question, mettre en place telle ou telle stratégie thérapeutique, curative ou palliative, quel sens ça a ? Donc on est toujours reconduit de toute façon à la question du sens. Et donc les directives anticipées, elles sont importantes parce qu'elles indiquent quelque chose, mais elles ne seront jamais suffisantes d'une certaine manière. Les professionnels auront toujours à refaire quelque part le débat avec le patient ou avec ses proches et avec l'équipe soignante pour assurer quelque part que ça a bien du sens.
Sur cette question des directives anticipées, Philippe Bataille.
C'est une avancée. Voilà. Plus on parle de ces questions, plus on les aborde, meilleurs seront les résultats.
Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment, justement, peut-être connu ?
Non, parce qu'effectivement, il y a la confusion entre ces situations où on a besoin de tout le monde, parce qu'on est vraiment tout seul, Et là, curieusement, la loi ne dit rien. Et puis, les situations de fin de vie, d'accompagnement, où là, effectivement, des progrès, des améliorations sont faits. Voilà, mais ça ne régule rien. Et tous les dispositifs en place sont incomplets. Voilà, dire que les directives anticipées sont contraignantes, mais il n'y a pas de clause de conscience du médecin. Donc voilà, donc qu'on en parle plus, c'est déjà pas mal.
Voilà, c'est ce qu'on aurait essayé de faire ce soir. On voit bien d'ailleurs que ces questions extrêmement complexes ne se résument pas à des positions pour ou contre, mais que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir participé à ce débat. Marc Grassin, donc je rappelle, La mort assistée aux éditions du Cerf, ouvrage coécrit avec Frédéric Pochard. Philippe Bataille, À la vie à la mort, Euthanasie, le grand malentendu aux éditions Autrement, Vivre et vaincre le cancer, c'était également un ouvrage un petit peu plus récent que vous avez écrit avec Sandrine Bretonnière pour le même éditeur. Un grand merci à l'équipe du Grain, Louise Fuseau, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Isolte Sicard, Philippine Lebray, émission réalisée par Romain Masson, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontani. Demain, suite de notre semaine spéciale, quelques débats de société dont nous allons essayer d'évaluer l'actualité. Faut-il supprimer l'âge de départ à la retraite ? Ce sera donc la discussion à partir de 18h20 demain.